Notre Père Céleste, nous te prions ce matin de nous accorder d'être proches de toi et de savoir écouter ce que tu as à nous dire, nous diriger selon tes plans. Alors conduis maintenant pour ce moment de prédication, donne-nous ta liberté, donne-nous de regarder à toi et de faire l'œuvre en nous que nous ne nous rebellions pas lorsque tu travailles dans nos cœurs. Mais que nous acceptions ton œuvre en nous, Seigneur, au travers de toutes les circonstances et ton esprit aussi en nous. Que nous puissions nous laisser façonner à ton image et ainsi te voir glorifié dans nos vies. Merci pour tout ce qui a été dit et fait ce matin et nous t'en rendons grâce. Amen. Alors dimanche prochain, on aura la table du Seigneur. C'était évident ce matin que c'était difficile. On aura le sujet du koinonia, la communion avec Dieu, communion avec les frères et sœurs. Et il y aura certainement d'autres partages, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont allées en Martinique, en Estonie et Philippines aussi, et d'autres qui tout simplement sont restées. On a vu des miracles ici au mois d'août, n'est-ce pas? Il y a des choses. On était 25 le dernier mardi de la réunion de prière. C'était vraiment encourageant. Puis il faut prier pour tout le clan Almonovar qui part au Maroc, là, c'est quel jour? Ce mercredi, il ne faut pas oublier de prier pour eux. Ils vont fêter le mariage, enfin, refêter le mariage, c'est ça Marilène? Donc, prions pour toutes les trois générations, hein? Patrick, Alexandra, Eric et Marilène et Daniel et Lydie. Alors, sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Et je vous invite avec moi à regarder Hébreux chapitre 12. Nous avons commencé toute une série sur le livre, le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Et on a regardé ce qu'est la course chrétienne. Vous savez, la vie chrétienne est comparée à un combat, une marche. Et aussi ici, notamment, comme l'apôtre Paul, l'Épître aux Hébreux compare la vie chrétienne à une course. Et donc, on va lire ce matin, faire un rappel un petit peu de ce que nous avons déjà vu pour être dans le contexte et essayer de continuer un sujet délicat qui est la discipline qu'exerce Dieu dans nos vies. Alors, nous lisons pour être dans le contexte, chapitre 12, verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assise à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, et car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Nous avons regardé quatre verbes clés dans les trois premiers versets. N'est-ce pas, qui est de rejeter le fardeau, toute espèce de fardeau, le péché, littéralement c'est écrit « nous enveloppe », mais ça pourrait être écrit « qui nous encercle si facilement », et « courons », ça c'est le seul impératif, les autres sont des parties présentes, « courons avec persévérance, avec patience, avec endurance, dans la carrière qui nous est ouverte ou la course qui est placée devant nous. On a vu que le mot course signifie agone, qui a donné le mot français agonie. Notre course est plutôt un marathon, n'est-ce pas, qu'un sprint qui amène une certaine endurance, souffrance et donc même une certaine agonie. Les yeux sur Jésus, le regard, donc regarder, et puis le modèle parfait, n'est-ce pas, après avoir, l'auteur aux l'Épître aux Hébreux décrit une liste de personnages qui ont vécu par la foi. Alors il termine avec ceux qui sont même morts à cause de leur foi, des martyrs, à la fin du chapitre 11, et ces gens-là devraient nous encourager. Mais il manque le modèle parfait, qui ne trompe jamais, n'est-ce pas, c'est Jésus-Christ lui-même, qui a souffert la croix et pour nous racheter. Et puis, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. » Pourquoi est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux amène et veut encourager ses lecteurs à considérer la vie de Jésus? Parce que ses lecteurs sont en souffrance. Ils sont persécutés. Ils sont persécutés parce que ce sont des Juifs qui ont quitté le judaïsme, la synagogue, et donc il y a toute une pression sociale, économique et religieuse et familiale sur ceux qui ont quitté la synagogue pour suivre Jésus-Christ. En plus, il y a ceux qui ont fait un pas, n'est-ce pas, qui peut-être, après hésitation, sont entrés dans l'Église ou la Nouvelle Alliance, le christianisme, mais qui ont abandonné la vérité, pourtant qu'ils ont connue. Et ces gens-là sont des apostates, des gens qui ont connu la vérité, l'ont abandonnée et qui découragent ceux qui non seulement ont fait le pas, eux, mais ceux qui hésitent encore. Parce qu'il y avait des hésitants dans l'Épître aux Hébreux, il y a plusieurs avertissements, ceux qui avaient un pied dans la synagogue, un pied dans l'Église et qui hésitaient encore à faire totalement le pas de suivre le Seigneur. Parce que pour suivre le Seigneur, il y a un prix à payer. Et ce prix pour eux était assez élevé. Ils avaient peur de la persécution et ils avaient peur de la souffrance. Alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux encourage, exhorte, instruit, reprend, avertit, mais il veut que ces Hébreux continuent à courir pour le Seigneur, sachant qu'ils doivent évaluer leur souffrance comme des choses normales qui arrivent dans la vie chrétienne. Alors, nous n'avons pas encore souffert le martyr. C'est ce que dit ici au verset 4 l'auteur, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et on se demande quel est le lien à partir du verset 4 jusqu'au verset 11 qui parle du châtiment de Dieu dans la vie des chrétiens avec les versets 1 à 3. Tout simplement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de dire, voilà, vous souffrez, oui c'est vrai, vous êtes persécutés, mais regardez à Jésus. Jésus, lui, a souffert le martyre de la croix. Et vous n'avez pas souffert comme Jésus. Et vous n'avez pas encore souffert comme ces croyants qui sont morts martyrs, dans le sens où vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore versé votre sang, vous n'êtes pas encore morts martyrs. C'est vrai, vous êtes persécutés, vous souffrez dans ces conditions, mais sachez qu'il y a ceux qui ont encore plus souffert que vous. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux, maintenant, il y a un point d'inflexion ici, est en train de nous enseigner. D'ailleurs, les souffrances, les difficultés, les épreuves sont faites ou sont un moyen par lequel Dieu exerce une discipline dans nos vies afin de nous faire croître et mûrir dans notre marche chrétienne. Alors la question, et c'était la même en fait, puisqu'on a déjà commencé ce message il y a déjà quelque temps, est la suivante que le Seigneur nous pose. Est-ce que nous sommes prêts à accepter le châtiment de Dieu dans nos vies? Alors, je m'empresse de dire, dans la traduction Darby, le mot châtiment est traduit par discipline. Et c'est vrai que dans l'original, le mot grec a plutôt l'idée de l'éducation que nous recevons de Dieu comme un père envers un enfant. Alors, Je vous lis un petit commentaire qui dit « La notion associée à ce terme est large, car il désigne tout ce que parents et enseignants font pour former, châtier, cultiver et instruire les enfants, afin de les aider à bien se développer et à atteindre la maturité. » Il est utilisé 9 fois, donc, dans les 8 versets, ou les quelques versets que nous avons lus, versets 4 à 11. Le mot « châtier », le mot « châtiment », qui peut être traduit aussi par « discipline » ou « discipliner », il n'empêche pas moins que Dieu, dans sa souveraineté et selon son bon vouloir, a droit sur nous. Est-ce que nous acceptons que Dieu ait droit sur nous ? Alors, il y a plusieurs attitudes, n'est-ce pas, face à ce qui nous arrive, que Dieu permet. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu exerce une discipline, voire un châtiment. Ça peut être traduit comme ça, parce qu'il est question de verge, on va en parler, n'est-ce pas, de correction par la verge. Est-ce que nous acceptons que Dieu travaille dans nos vies pour nous façonner à son image au travers des épreuves et voire des châtiments qu'il exerce sur nous ? C'est une question profonde, cela. Ce n'est pas facile à traiter. Alors, en introduction, la dernière fois, on a vu, et je voudrais juste le rappeler rapidement, c'est qu'en fait, Dieu utilise le châtiment sous 3 aspects. Il y a l'aspect punition. Le châtiment que Dieu nous inflige est une conséquence directe de nos péchés, mais il vise la correction et non le jugement. Dieu ne nous condamne pas, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu n'est pas un juge envers nous, mais il peut être un correcteur. Il y a aussi la prévention, parfois Dieu nous prévient par les épreuves du péché, parce que si nous n'avions pas de problème, de difficultés, voire maladies, peut-être nous vivrions des choses pires devant Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, c'est terrible quand vous dites ça à quelqu'un. C'est facile à dire. Mais quand on vient vous le dire, que vous êtes dans l'épreuve, mais tu sais, mon frère, toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Là, vous réalisez que, et pourtant c'est vrai, que c'est peut-être pas facile à dire, c'est pas facile à recevoir, il n'empêche pas moins que c'est une vérité. Est-ce que nous acceptons que tout ce qui nous arrive vient de Dieu, permis par Dieu ? Et puis, il y a l'instruction que l'on trouve, comme dans le cas de Job, éprouvée, on ne va pas, n'est-ce pas, malheureusement, c'est passionnant de parler de Job, mais on ne va pas regarder à nouveau à Job, mais Job a souffert, et les pourquoi de Job, n'est-ce pas, sont multiples dans son livre, jusqu'à ce qu'il découvre qui est Dieu en plus grande profondeur. Et nos épreuves nous amènent à une plus profonde connaissance de Dieu, de Jésus-Christ, sa souffrance, sa miséricorde, sa patience, son amour, sa bonté, sa grâce. Parce qu'éprouvés, nous pouvons consoler les autres, dit l'apôtre Paul. Ayant été l'objet de la consolation de Dieu par nos épreuves, nous sommes appelés aussi à consoler ceux qui souffrent. Ayant été consolés, nous avons de Dieu la capacité de commencer à consoler les autres. J'ai perdu ma maman, j'avais l'âge de 19 ans, elle est décédée de malaise et sa voiture est allée malheureusement contre un platane sur la route de Revel et elle est décédée. Et vous savez, je n'ai jamais plus pu entendre et de la même façon des gens qui parlaient d'un être cher qui était décédé. Quand on a vécu cela, on a une sensibilité pour les autres. Dieu peut transformer tout mal dans notre vie, toute épreuve, à sa gloire. Il faut comprendre cela. Et donc, lorsqu'on est touché par Dieu dans l'épreuve, de cette épreuve sort la bonne odeur de Jésus-Christ qui peut se répandre pour les autres. C'est vrai que notre vie, parfois, se consume, n'est-ce pas ? On voudrait rattraper notre vie, on a peur de mourir à soi-même, puis de se consumer pour Dieu, pour l'éternité. Mais c'est la seule façon, le brisement, de briller pour Dieu, d'être vaincu pour vaincre, n'est-ce pas ? Et c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Alors, le sujet de ce matin, je l'ai intitulé « Le châtiment de Dieu ». Ce n'est pas populaire, peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre cela, c'est pourtant ce que dit le texte ici, c'est ce que nous allons regarder ensemble. Comment Dieu châtie-t-il ? Est-ce que tu peux tourner l'ordinateur, merci. Je l'ai mis sous forme de question dans le texte, parce que le texte répond à ce sujet. Qui châtie ? Qui est châtié ? Pourquoi Dieu châtie-t-il ? Comment châtie-t-il ? Comment réagir face au châtiment ? Ici, le texte et le verset clé, évidemment, le mot clé, c'est supporter, et le verset clé, c'est supporter le châtiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait face au châtiment de Dieu, et quels sont les fruits du châtiment? Alors, brièvement, on a déjà regardé, je crois, la dernière fois, les buts du châtiment que je viens de mentionner à l'introduction. Qui châtie? Alors, je m'empresse de dire que ce n'est pas notre Père qui est là comme un juge, mais comme un Père d'amour. Et le fait qu'il nous discipline et qu'il nous châtie, c'est la preuve de son amour. Un père qui aime son enfant va châtier son enfant. Celui qui ménage sa verge, dit la Bible, comme père, est son fils. Vous vous rendez compte? Donc la correction fait partie de l'attribut de l'amour de Dieu. Il faut comprendre cela. Ensuite, qui est châtié? Bien, les enfants de Dieu. On n'aime pas être châtié, n'est-ce pas? Mais le châtiment de Dieu est la preuve qu'il est notre Père et qu'on est son Fils. Et donc, si nous sommes châtiés par Dieu, croyons non seulement que la main de Dieu le permet, mais que c'est une main d'un Dieu d'amour qui nous voit comme ses enfants. Tant que nous ne découvrons pas cette dimension et que nous doutons de l'amour de Dieu, nous allons avoir beaucoup de difficultés à faire face aux corrections de Dieu ou aux situations, épreuves difficiles. Ensuite, pourquoi Dieu châtie-t-il? Je crois que nous en étions rendus là. Tout d'abord, parce que tout simplement, il châtie de la même façon qu'un père châtierait son fils. Quand est-ce qu'un père châtie son enfant? Quand il est désobéissant ou rebelle. La rébellion dans l'Ancien Testament est constamment châtiée par Dieu. Et la rébellion dans le cœur de l'enfant doit être châtiée par les parents. Sinon, la rébellion s'installe et l'enfant ensuite vit une phase, un comportement, et peut-être un comportement à vie, de contestation, de rébellion. L'obéissance est le vrai fruit, n'est-ce pas, d'une relation, d'une confiance, d'amour, et aussi d'une volonté à vouloir se soumettre. Car la désobéissance, a dit Samuel à Saül, est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est ce que Samuel a dit comme jugement envers un roi Saül qui avait été élu par le peuple et par Dieu, oint par Dieu, par le prophète, mais qui s'était détourné de l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a toujours des conséquences dans notre désobéissance ou rejet de la parole de Dieu. Qu'on le veuille ou non, qu'on lise la parole de Dieu ou non, qu'on connaisse ou non la parole de Dieu, si on désobéit à la parole de Dieu, Dieu nous tient responsables de lire et de mettre en pratique. Ne pas être des auditeurs oublieux, comme dit Jacques, parce qu'on pourrait être un auditeur oublieux qui oublie comme il est. Et la parole de Dieu est le miroir qui reflète qui nous sommes. Et des fois, quand la parole nous parle et nous dit qui nous sommes et quels sont les péchés de nos vies, on n'a pas trop envie, n'est-ce pas, d'écouter Dieu. Pourtant, Dieu veut réformer nos cœurs. Et je pense à un exemple concret. La Bible est ferme en disant qu'on ne doit pas se mettre sous le joug étranger. Et donc, Dieu veille à ce que nos liens, notamment les liens du mariage, soient faits dans le Seigneur. C'est un exemple pratique, mais d'obéissance et de croyance, malgré peut-être des sentiments. Aussi, Dieu nous châtie parce que nous transgressons sa loi. La loi de Dieu a été donnée comme pédagogue pour nous amener à Jésus-Christ, notamment les 10 commandements, n'est-ce pas? Mais la loi de Dieu est le reflet de la sainteté de Dieu, de la volonté de Dieu pour les hommes et les femmes, de tout temps. Et la Bible dit « Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier, celui qui est la réprimande mourra ». Donc il y a plusieurs attitudes possibles face à la correction qui finalement empêche peut-être l'œuvre de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Je vais oser faire quelque chose, j'ai beaucoup hésité à faire ça, parce que je ne voudrais pas que ce soit mal compris, mais en étudiant la loi judaïque, le code hébreu, n'est-ce pas, de ce qui se passait en Israël, on est quand même devant un sentiment d'une crainte de Dieu. Et je vais vous donner une liste. Alors, après, je vous ferai rapidement un mot d'encouragement. Mais il faut savoir que dans l'Alliance, l'ancienne Alliance, n'est-ce pas ? On est dans la Nouvelle. C'est pour ça que je m'empresserai de dire ce que c'est que la Nouvelle Alliance par rapport à cela. Nous lisons dans l'Ancien Testament. N'oublions pas cela. C'était la loi de Dieu appliquée au peuple d'Israël. Qu'est-ce qui méritait la peine de mort ? 5 délits capitaux. Le sacrifice aux idoles, la magie, l'évocation des morts, la divination, la profanation du sabbat, le blasphème, la fausse prophétie prononcée en invoquant des divinités païennes ou en jurant faussement ce nom de l'Éternel. Vous vous rendez compte ? On ne se moquait pas de Dieu. Et il y avait aussi l'exclusion de la communauté israélite, qui était aussi un châtiment pour tous ceux qui se révoltaient aux institutions émanant des ordonnances fondamentales du culte. Non seulement ça c'était au niveau religieux, mais il est question aussi de l'impudicité. Qu'est-ce qui entraînait la mort, l'adultère, la séduction d'une vierge non esclave, fiancée à un autre homme, les vices contre nature, la bestialité, la sodomie, l'inceste avec belle-mère ou belle-fille. On mettait à mort la prostituée qui était fille du sacrificateur et l'on brûlait son corps. Je peux vous dire que les gens devaient avoir une certaine crainte. Alors, ne faisons pas d'amalgame avec ce qu'on entend aujourd'hui, n'est-ce pas, dans des extrémismes religieux. Je m'empresse de le dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un code de relation avec Dieu dans l'Ancien Testament et il y avait des pénalités, des conséquences, des causes à effet de ce que les Israélites faisaient lorsqu'ils dérogeaient la loi. Nous comprenons bien que nous avons tous dérogé la loi. Il n'y a pas même un seul juste, dit la Bible. Nous sommes tous condamnés devant Dieu parce que la loi est parfaite, Dieu est parfait, et nous ne le sommes pas. Donc nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, dérogé la loi. Il y avait aussi la peine capitale pour les enfants rebelles qui frappaient leurs parents ou qui devenaient ivrognes, ou le refus de se soumettre au décret du sacrificateur. Alors, tout cela pour dire que la loi devant Dieu était appliquée et Dieu voulait qu'on l'applique. Tout ça pour nous amener à autre chose. Alors, ce matin déjà, merci Seigneur, parce qu'on n'est plus sous la loi. Mais j'ai voulu vous apporter ça pour vous montrer la grâce, d'autant plus que nous avons dans nos vies, même si Dieu a la souveraineté de nous châtier et de nous corriger, par rapport à ce que vivaient les Israélites dans l'Ancien Testament. Il n'empêche pas moins que la loi, c'est la loi, mais merci Seigneur, de ce qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, ça ne veut pas dire de prendre cette liberté, comme dit Paul aux Galates, un prétexte de vivre selon la chair. C'est pas ça que dit ce que je veux vous dire. Mais merci Seigneur, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons été pardonnés. Et nous sommes sous la grâce aujourd'hui. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La grâce est venue dans notre vie parce que le Père a envoyé son Fils sur la croix pour nous démontrer qu'il nous aime, pour nous amener à vivre dans une relation d'amour, non pas de crainte, de peur, sous une loi, mais sous l'amour de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas amour dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais Dieu a toujours le droit d'un regard sur nos vies. Est-ce que vous laissez Dieu regarder votre vie ? Ça vous est jamais arrivé d'avoir envie de fuir une situation ? Finalement, ce n'est pas moi le problème, c'est la situation. Jusqu'au jour où on comprend que le problème, ce n'est pas la situation, c'est la façon avec laquelle on réagit vis-à-vis de la situation. On n'est peut-être pas coupable dans certains domaines de ce qui nous arrive, mais on est responsable de la manière avec laquelle on réagit aux situations. Même si on n'a pas envie de vivre certains événements, mais Dieu les permet. Alors allons-y un petit peu plus loin, si vous me permettez. Comment Dieu nous châtie-t-il ? Ben écoutez, il n'y va pas de main morte parfois. Parce que la Bible dit ici, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Donc la raison, la motivation de Dieu pour nous châtier, c'est quoi ? C'est son amour. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Bon, j'ai oublié de mentionner, je vois sur le PowerPoint, c'est vrai que nous participons aux souffrances de Christ, c'est écrit largement en 1 Pierre, à cause de la persécution. Mais on va aller un peu plus vite ce matin. Donc ici, il est question de la verge. La Bible dit, version Darby, « Car celui que le Seigneur aime, il le discipline ou il le châtie, et il fouette tout fils qu'il agrée. » Mais on n'a pas envie d'avoir un père fouettard. C'est ce que présentent beaucoup de religions aujourd'hui. Mais n'empêche pas moins que Dieu utilise la verge de correction pour nous redresser. Et à cela, on peut dire Amen. Si vous êtes un enfant de Dieu, et si Dieu de temps en temps vous prend d'une certaine manière, n'est-ce pas, et vous donne une bonne fessée, c'est qu'on le mérite. Hein. Vous savez, les enfants, ils n'aiment pas les fessées, hein, en principe. Hein. Il y a un père qui a dit, voilà, c'est pour ton bien. Oui, mais papa, je n'ai pas fait ça. Oui, mais tout ce que tu as fait avant, hein, tu n'as pas été corrigé. Dieu n'agit pas comme ça, on y viendra dans un instant. Mais ici, le mot frappe de la verge est un mot très fort dans le grec. Tenez-vous bien qu'il ait été utilisé, malheureusement, dans un sens par les Juifs, comme une flagellation. Et c'est une pratique courante chez les Juifs. C'est donc un châtiment sévère et douloureux. Vous n'avez jamais souffert devant Dieu, écrit à Dieu. Moi, j'ai souffert devant Dieu. Parce que parfois, je désobéis, ou je ne suis pas dans le plan de Dieu, et j'ai dû crier à Dieu. Parce que la souffrance spirituelle, psychologique, ou de cœur qui était amenée, sans parfois toujours comprendre, m'a poussé à revenir vers Dieu. Et je crois que dans nos vies, reconnaissons que si Dieu permet son châtiment, c'est qu'il a quelque chose à nous apprendre. C'est un pédagogue qui veut nous aider à aller plus loin. Ne restez pas là où vous êtes. Dieu veut que vous alliez plus loin. Vous savez pourquoi ? Non seulement il vous aime parce qu'il vous a sauvé à la croix, mais il nous aime parce qu'il veut nous récompenser au ciel. Il veut nous récompenser de la façon la plus glorieuse. Il a des projets extraordinaires, éternels, non seulement de vie éternelle comme un don gratuit, mais aussi de récompense à ses enfants pour vivre dans la gloire, la plus grande gloire possible dans le ciel. Parce que les récompenses seront proportionnelles à notre vie sur terre, et la gloire du ciel est l'amplification de ce qu'on aura vécu sur la terre avec le Seigneur. Alors Dieu, par amour, parce que nous ne possédons plus rien. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous dites, moi je possède encore mon corps, je possède ma vie, je possède mon avenir, mais vous n'avez pas compris encore ce que c'est que la vie chrétienne. Parce que quand on est converti, on se donne à Jésus comme Seigneur. On dit sauveur, mais Seigneur, il est maître. Seigneur, je te donne ma vie. Comme il est écrit, Salomon disait dans les Proverbes, mon fils, donne-moi ton cœur, c'est Dieu qui parle. Lorsqu'on donne son cœur, savez-vous quoi ? Dieu le prend. Et il le prend au sérieux, ce qu'on lui dit. Et donc, si on lui a donné sa vie, il va tout faire pour nous dire, voilà, tu nous rappeler, tu as donné ta vie. Alors, dans tel ou tel domaine, est-ce que je suis maître de ta vie ? Et si il n'est pas maître, il va prendre la verge de correction parce que nous lui avons demandé qu'il soit le maître de notre vie. Et en amour, en retour d'amour, envers son amour, nous l'aimons et donc nous lui laissons de diriger notre vie. Et Dieu nous corrige. Alors reconnaissons que nous, pères ou mères, nous avons parfois fait des erreurs dans la correction de nos enfants. Ou nous l'avons fait avec colère, ou nous l'avons fait avec maladresse, ou nous ne l'avons pas fait du tout, ce qui est pire, parfois, ce qui peut être pire. Parce que la Bible dit, celui qui mère ménage sa verge et son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Et je voudrais ajouter le proverbe 23, si vous me permettez. Vous pouvez tourner dans vos Bibles, proverbe 23, verset 13. Proverbe 23, verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant, si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Vous vous rendez compte, le séjour des morts, ça c'est l'enfer. Donc la correction du Seigneur, des parents envers les enfants, ont pour but de redresser l'enfant pour qu'il soit amené au Seigneur. Et cette correction, bon, on n'a pas le temps d'en parler en détail, mais c'est une correction que Dieu demande des parents envers les enfants. Dobson, dans son livre « Oser discipliner », qui est docteur en psychologie, un pasteur, dit dans son livre que la délinquance est directement proportionnelle chez les enfants au manque de discipline à la maison. Et c'est un grand manque aujourd'hui, en général, la discipline. Et c'est grave. Alors non seulement Dieu nous frappe d'une certaine façon et sévère, mais toujours avec sainteté, et toujours avec justice, et toujours de la bonne façon. Et nous, parents, reconnaissons que parfois nous nous trompons dans la mesure du châtiment ou de la correction que nous exerçons avec nos enfants. Mais rassurons-nous, Dieu, lui, ne se trompe pas. Et lorsque je crois que ma situation... Mais pourquoi Dieu permet ça ? Dieu ne s'est pas trompé. Le deuxième aspect que j'aimerais vous dire, c'est que tout simplement, il y a une loi de cause à effet. Dieu nous châtie. Écoutez, si on boit trop, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir une bonne crise de foie, manger trop de chocolat ou faire des excès dans tel ou tel domaine. Il y a toujours des causes à effet. Dans la vie chrétienne, il y a des lois intrinsèques. Si j'abandonne Dieu, si j'abandonne la communion avec Dieu, Dieu ne m'abandonne pas. Je garde toujours une relation avec Dieu parce que lui a décidé ainsi. On ne perd pas le salut, c'est éternel, mais je peux perdre la communion avec Dieu. Et dans cette communion qui est si précieuse, si précieuse pour l'enfant de Dieu, envers Dieu, qui est la paix, qui est la joie, qui est l'assurance de l'amour de Dieu, qui est l'assurance de sa grâce, de son pardon, de sa miséricorde, ne serait-ce que de sa présence. S'il y a abandon de Dieu, si nous quittons la source, eh bien nous allons tarir dans nos vies et connaître des déserts avec angoisse, inquiétude et toutes sortes de sentiments qui seront loin de l'apaisement que Dieu veut nous amener dans nos vies. Est-ce que nous avons fait confiance au Seigneur, bien-aimé, au point où nous lui laissons le droit d'agir dans nos vies, dans tous les domaines de notre vie ? Je ne sais pas où vous en êtes ce matin avec le Seigneur, mais Dieu vous aime. Nous ne sommes plus sous la condamnation, nous sommes passés de la mort à la vie, et nous ne sommes plus appelés à être jugés pour être condamnés. Mais Dieu, parce que nous sommes ses enfants, nous lui appartenons, nul ne vit pour lui-même, il a droit de regard sur ma vie. Est-ce que je le laisse agir ? Et reconnaissant que le chrétien dit rétrograde, n'est-ce pas, vit des choses difficiles dans sa vie. Ça vous est jamais arrivé dans votre vie où il semble que tout va mal. Le ciel devient d'airain, les prières ne sont plus exaucées, il n'y a plus le sentiment de la présence de Dieu, les choses matérielles deviennent compliquées. En fait, il y a une confusion qui naît dans la vie du croyant qui s'éloigne de Dieu et qui le rend triste et malheureux, la tristesse du Saint-Esprit en lui qui devrait le pousser à se repentir, à revenir vers Dieu le Père. Et Dieu peut même enlever la vie, on a vu le châtiment exemplaire d'Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament, ou d'autres dans l'Ancien Testament, des châtiments exemplaires. Mais Dieu nous aime, et s'il permet parfois des choses difficiles à notre vie, c'est qu'il veut accomplir une œuvre. Quand Israël s'éloignait de Dieu, qu'est-ce que Dieu faisait ? C'est clair dans le temps des juges. Dieu suscitait des ennemis à Israël. Alors Israël se plaignait. C'est dur la vie, loin de Dieu. Et Israël se plaignait, il murmurait, puis finalement il décidait de se repentir. Alors Dieu suscitait un juge qui était leur leader, en quelque sorte, qui les ramenait vers Dieu. Et ils commençaient à de nouveau à connaître les bénédictions de Dieu, à être dans un réveil spirituel. Et dans ce réveil spirituel, ils se réjouissaient un certain temps jusqu'à ce que, malheureusement, le cycle de leur comportement est tellement défini du temps des juges, dans le livre des juges, n'est-ce pas, qu'ils retombaient dans leur péché. Ils s'éloignaient de Dieu, Dieu les châtiait, les Philistins les envahissaient, ils étaient tout à fait malheureux, et puis ils continuaient finalement à s'éloigner jusqu'à ce que, dans leur désespoir, ils retournaient vers Dieu. On n'a pas besoin de vivre un tel cycle, n'est-ce pas, devant Dieu, d'attendre d'être toujours malheureux pour venir vers Dieu. Il y a plus de bonheur à obéir qu'à désobéir. La désobéissance amène beaucoup de difficultés dans la vie. Et je dois m'arrêter là, je pense. Bon, ben on y reviendra. Dieu veut nous instruire, bien-aimés, et on doit y revenir, on y reviendra. Merci Seigneur de ce que tu es un Dieu d'amour qui a le droit sur nous, le regard. Et nous devons apprendre à considérer nos voies. Je pense à ce psaume qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et fais-moi connaître si je suis sur les voies de l'éternité, c'est-à-dire ta volonté. » Papa du ciel, nous t'aimons. Nous tenons le droit d'avoir regard à notre vie, de nous rattraper, de nous retrouver lorsque nous nous égarons, de nous châtier lorsqu'il est nécessaire. Et nous savons que tu le fais par amour. Et ce matin, nous voulons proclamer que tu es un Père d'amour pour nous qui t'avons accepté et que nous sommes heureux d'être tes fils parce que tu ne nous abandonnes jamais. Même lorsque nous avons tendance à nous éloigner, tu nous ramènes vers toi, ce qui est la preuve de ton alliance envers nous, une alliance éternelle. Aussi, nous t'en sommes reconnaissants. Nous nous humilions devant toi et nous reconnaissons, Seigneur, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous t'en donnons toute la gloire au siècle des siècles. Amen.